Bonjour à tous et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement de la lecture, de l'écriture et du calcul partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant.
Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon 43 de nos leçons de lecture et d'écriture.
Si vous avez suivi notre programme, vous savez que ces leçons de lecture et d'écriture sont diffusées tous les jours.
Toute personne ayant des compétences de base en lecture et écriture peut participer.
Vous pouvez suivre ces leçons tout seul, mais si possible, j'encourage vivement les parents ou les adultes à participer aussi. Cela ne prend que 15 à 20 minutes.
Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Mais si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même participer. Faites les exercices dans votre tête ou écrivez sur le sable ou en l'air.
C'est exact, Mariama. Nous allons commencer par réviser ce que nous avons appris pendant notre dernière leçon.
Dans notre dernière leçon, nous avons appris à écrire une lettre amicale.
C'est ça. Vous avez appris des choses sur le format d'une lettre amicale. Ça veut dire que vous avez appris les différentes parties d'une lettre amicale.
Oui, l'en-tête, la formule d'appel, le corps, la formule de politesse et la signature.
Très bien.
Ensuite, nous nous sommes entraînés en écrivant une lettre d'excuse amicale.
C'est ça. Aujourd'hui, vous allez apprendre des choses sur le format ou les différentes parties d'une lettre professionnelle et vous allez vous entraîner à écrire une lettre professionnelle.
Mais d'abord, nous allons vous révéler le mot mystère de notre dernière leçon.
C'est un mot
qui a 7 lettres et 3 syllabes. Ça peut être un verbe ou un adjectif. Il veut dire le mouvement de quelque chose ou de quelqu'un depuis son lieu d'origine ou habituel. Une phrase avec ce mot est « Quand ils ont été de leur village, Camille et sa famille sont partis vivre dans un camp de l'autre côté de la frontière. »
Auditeur, qu'avez-vous trouvé? Dites le mot à voix haute.
Le mot mystère d'aujourd'hui est « déplacé ». D-E-P-L-A-C-E-S.
Quand ils ont été déplacés de leur village, Camille et sa famille sont partis vivre dans un camp de l'autre côté de la frontière. Maintenant que nous avons révélé le mot mystère, nous avons un message important pour nos auditeurs. Écoutons-le. Après le message, nous commencerons la leçon du jour. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Dans notre leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre à écrire une lettre professionnelle en utilisant un ton formel. Vous avez déjà écrit une lettre professionnelle?
Non.
Ne vous inquiétez pas. Ça peut avoir l'air plus difficile qu'une lettre amicale, mais ce n'est pas si difficile. Nous allons commencer par un format de lettre professionnelle standard. À votre avis, comment une lettre professionnelle commence?
Avec un en-tête?
C'est ça. Comme pour une lettre amicale, votre en-tête inclut l'adresse de l'auteur de la lettre ou adresse de l'expéditeur et la date. Après, on trouve quelque chose qu'il n'y a pas dans une lettre amicale. On appelle ça l'adresse d'expédition.
Qu'est-ce que c'est?
C'est l'adresse où vous envoyez la lettre.
Pourquoi on doit la mettre?
C'est l'adresse du destinataire. on la met en copie à l'intérieur, mais elle se trouve aussi à l'extérieur de la lettre ou sur l'enveloppe.
OK.
Après l'adresse d'expédition, il y a la formule d'appel.
On peut utiliser les formules d'appel comme dans une lettre amicale?
Certaines des formules d'appel peuvent être utilisées. Par exemple, « cher ». Mais dans une lettre professionnelle, donc plus formelle, vous pouvez utiliser d'autres formules d'appel. Si vous ne connaissez pas bien le destinataire, « monsieur » ou « madame » est plus sûr. Si vous connaissez le titre et le nom de famille du destinataire, vous pouvez l'utiliser. Par exemple, « cher docteur Doro ». Si vous connaissez bien le destinataire et que vous avez une relation informelle avec lui ou elle, vous pouvez utiliser son prénom. Par exemple, « cher Abdoul ». Si vous ne savez pas si le destinataire est un homme ou une femme et que vous ne connaissez pas son titre, utilisez simplement le prénom et le nom de famille. Par exemple, « cher Abdoul Doro ». Vous pouvez aussi utiliser « acquis de droit ». Mais vous ne devez utiliser cette formule d'appel que si vous ne savez pas à qui vous vous adressez.
Mais je dois bien savoir à qui j'adresse une lettre.
Pas toujours. Par exemple, si vous écrivez une lettre à une entreprise pour vous renseigner sur un produit, mais que vous ne savez pas qui est la personne dans l'entreprise qui va répondre à votre question.
OK.
Et n'oubliez pas d'utiliser une virgule après la formule d'appel. Si vous utilisez la formule d'appel « acquis de droit », vous devez aussi utiliser une virgule.
OK.
À votre avis, qu'est-ce qui vient après la formule d'appel?
Le corps de la lettre?
Très bien. Comme pour une lettre amicale, le corps est la partie principale de votre lettre. Le corps de la lettre, c'est la raison pour laquelle vous écrivez. Une lettre professionnelle doit être courte et aller rapidement au but. Le ton doit être formel et poli. Un bon moyen de commencer est de dire « je vous écris concernant » et partir de là.
D'accord. Après, c'est la formule de politesse?
C'est ça. Une lettre professionnelle se termine comme une lettre amicale avec une formule de politesse et une signature. Mais comme les formules d'appel d'une lettre professionnelle sont un peu différentes de celles d'une lettre amicale, les formules de politesse sont aussi un peu différentes. La formule de politesse, comme la formule d'appel, doit être respectueuse et formelle. De bons exemples sont sincère salutation ou sincèrement. Vous pouvez aussi utiliser bien cordialement ou bien à vous. Des formules de politesse un peu moins formelles, mais toujours professionnelles, sont par exemple amicalement, bien amicalement et merci. Et n'oubliez pas de mettre une virgule après votre formule de politesse.
Après, c'est la signature?
Oui. Mais dans une lettre professionnelle, vous allez écrire en général deux fois votre nom. Après la formule de politesse, vous devez laisser un espace, puis écrire votre nom très nettement. Si vous avez tapé la lettre sur une machine à écrire ou si vous l'avez imprimée à partir d'un ordinateur, vous allez taper votre nom sous la formule de politesse. Après, vous devez aussi inclure une signature manuscrite dans l'espace entre la formule de politesse et votre nom tapé à la machine ou inscrit.
D'accord, Monsieur Badji. Je pense que j'ai compris.
Super. Je vais ensuite lire un exemple de lettre professionnelle. Je vous demande de faire attention au ton et au langage.
D'accord, Monsieur Badji.
C'est important de savoir que le format des lettres professionnelles peut changer selon les coutumes et les traditions locales. Alors, Même si les informations que je vous ai données sont en général utiles, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose ou si vous pensez que vous avez vu des lettres professionnelles qui n'étaient pas écrites pareilles, vérifiez bien que votre lettre ressemble aux lettres professionnelles que vous voyez là où vous vivez. Si vous n'avez jamais vu de lettre professionnelle, vous pouvez sans problème utiliser le format que vous apprenez ici ou vérifier le format que vous voulez utiliser en demandant à un adulte. Je vais maintenant lire un exemple de lettre professionnelle. Écoutez bien le ton et le langage utilisé dans cette lettre professionnelle. Une lettre professionnelle doit utiliser des phrases courtes et simples et un vocabulaire basique. Vous êtes prêt?
Oui, Monsieur Badji.
D'abord, nous allons commencer par l'entête. Toutes les lignes de l'adresse et la date dans l'entête doivent être placées d'un côté de la page. Ça peut être à droite ou à gauche, en fonction des coutumes locales et de la langue dans laquelle vous écrivez. La première ligne de l'entête va être la première ligne de l'adresse ou le nom et le numéro de rue. Dans ce cas, c'est 6 rue Novembre. La ligne suivante, qui vient directement après la première ligne, est la deuxième ligne de l'adresse. En général, c'est la ville et le nom du pays et le code postal s'il y en a. Dans ce cas, c'est Bamenda, Cameroun. La troisième ligne, qui vient encore une fois directement sous les deux premières, est pour la date. Dans ce cas, c'est 10 octobre 2016.
Ok, pour l'instant, je comprends.
Puis, on a l'adresse d'expédition. N'oubliez pas, c'est l'adresse de la personne à laquelle vous envoyez la lettre. Cette adresse est placée du côté gauche ou droit de la page. En général, on va la mettre du côté opposé de la page par rapport à l'entête.
Donc, si l'entête est à droite, l'adresse d'expédition est à gauche?
Oui. Ou l'inverse, si l'entête est à gauche, l'adresse d'expédition est à droite. Mais encore une fois, demandez à un enseignant ou à un adulte où vous vivez si vous n'êtes pas sûr. Revenons à l'adresse d'expédition. La première ligne est le nom du destinataire. N'oubliez pas de mettre le titre de la personne si elle en a un.
Un titre, c'est comme monsieur ou docteur ou président?
Exactement. Dans ce cas, on utilise le mot honorable comme titre. Donc, dans notre exemple de lettre, la première ligne de l'adresse d'expédition est honorable Iba Yerima. La ligne suivante donne le titre complet ou la position de la personne. Des exemples peuvent être le président d'une entreprise ou le directeur d'une école. Dans notre exemple, la position complète de la personne est directeur de l'enseignement secondaire. Les lignes suivantes donnent l'adresse de la personne. Vous allez encore une fois mettre l'adresse, qui peut être une adresse physique ou une boîte postale. L'adresse est suivie par la ville. Le code postal et le pays, ça dépend de la manière dont les adresses sont écrites où vous vivez. Dans notre exemple de lettre, l'adresse est BP 471, qui est une boîte postale, puis la ligne suivante est Yaoundé, Cameroun.
D'accord. Dans notre pays, je crois qu'on n'utilise pas de code postaux, n'est-ce pas?
C'est vrai. Mais vous pouvez envoyer des lettres vers des lieux qui ont des codes postaux. C'est donc bien de savoir où on les met dans l'adresse. Je vais maintenant lire la formule d'appel, le corps et la formule de politesse de notre exemple de lettre. Cher honorable Yerima, je vous écris parce que je suis profondément préoccupé par l'état des classes dans mon école, le lycée pour filles de Bamenda. suite à plusieurs jours de pluie intense, le toit du bâtiment principal de notre école a été gravement endommagé. Il nous est donc maintenant difficile, à nous élèves, d'aller en classe et parfois même impossible de suivre nos leçons quand il pleut, car nous sommes trempés. L'État a le devoir de s'assurer que les écoles publiques bénéficient de ressources et de fonds adéquats. Je demande à ce que l'administration de l'État mette tous les moyens possibles en œuvre pour réparer ces toits et introduise un système de planification qui protège nos droits à une éducation de qualité en tant qu'élève. Après tout, l'éducation est le fondement d'une société solide. Sincèrement, Adama Bakari. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette lettre?
C'était vraiment bien. Je pense que l'honorable Yerima va devoir écouter les préoccupations des élèves.
Oui, elle est très bien écrite. Dites-moi, qu'avez-vous pensé du ton?
Il est très poli et formel. Et le langage est très soigné.
C'est ça. L'élève veut être prise au sérieux. Alors, elle écrit aussi bien que possible. Elle explique bien la situation en donnant des détails. Comme ça, le destinataire sait exactement ce qu'est le problème.
Et c'est très bien qu'elle explique que les élèves ne peuvent pas étudier à cause du toit.
Oui. Elle décrit les conséquences ou les résultats du toit cassé. Est-ce que vous voulez écrire votre propre lettre professionnelle maintenant?
Oui, Monsieur Badji.
Je vais vous donner deux scénarios ou situations. La première situation, c'est une lettre au député de votre région qui dit votre inquiétude de manquer l'école à cause des routes qui sont fermées pour un rassemblement politique. La deuxième situation, c'est une lettre au directeur de votre école qui dit votre préoccupation à cause du manque de manuels scolaires dans les classes.
Ok, ces situations sont très sérieuses.
Oui, n'oubliez pas d'expliquer pourquoi le problème dont vous parlez est important. Il est aussi très important de proposer des solutions. Vous ne devez jamais écrire une lettre professionnelle seulement pour vous plaindre. Essayez toujours d'avoir une solution ou une proposition utile.
D'accord. Je vais écrire sur les manuels scolaires.
Alors, comment tu vas commencer ta lettre?
Avec mon adresse et la date d'aujourd'hui.
Très bien. C'est ce qu'on appelle l'entête. Et puis,
l'adresse de mon école?
Oui. Ensuite, c'est l'adresse d'expédition. Mais n'oublie pas d'écrire d'abord à qui tu vas écrire. Donc, le nom du directeur de l'école suivi de son titre complet. Et puis, tu vas écrire l'adresse de l'école.
Et tout ça se trouve du côté opposé de la page par rapport à l'entête?
C'est exact. Qu'est-ce qui vient après?
Ma formule d'appel. Je vais utiliser « Cher directeur Molefe ».
Et le corps de ta lettre?
Je veux dire que nous n'avons pas eu de manuel scolaire dans notre école depuis 2 ans. Je sais que l'école n'a pas beaucoup d'argent, mais nous sommes prêts à partager les manuels scolaires. Et peut-être que nous, les élèves, nous pouvons essayer de faire quelque chose pour récupérer de l'argent pour acheter les manuels scolaires, parce que notre éducation est la chose la plus importante pour nous.
Ça a l'air très bien.
Et puis, je vais utiliser la formule de politesse sincèrement.
Et la dernière partie?
Ma signature? Je n'ai pas d'ordinateur ou de machine à écrire. Alors, je vais juste signer mon nom normalement.
Oui. Mais tu dois aussi écrire ton nom sous ta signature pour qu'on sache bien qui a écrit la lettre. Comme devoir à la maison, je vous demande de réviser et d'éditer le brouillon de lettres professionnelles que vous avez décidé d'écrire aujourd'hui.
Et maintenant,
c'est l'heure de notre mot mystère. À toi, Mariama.
Ce mot a 7 lettres et 3 syllabes. Ça peut être un nom ou un adjectif. Il décrit quelqu'un qui a dû fuir son pays à cause de la guerre ou d'une crise. Le nombre de dans le monde augmente en raison des conflits humains et des catastrophes naturelles.
Sur ce, il est l'heure de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, la prochaine leçon sera diffusée demain à la même heure. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour continuer à apprendre et découvrir le mot mystère. Au revoir.
À bientôt.